Pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'était il y a 10 ans, jour pour jour, et à Radio France, ce dont je me souviens, c'est que tous les personnels de toutes les chaînes réunis, ou presque, les grands et les grandes chefs et les petites mains, tous et toutes, nous nous étions retrouvés dans le très bel et très solennel auditorium pour un moment de recueillement. Chacun avait confectionné sa petite pancarte avec écrit « Je suis Charlie » et on est resté là sans dire grand-chose pendant un moment et ça a fait vraiment du bien. Depuis, je ne me souviens pas d'un moment où on ait été aussi unis et d'accord. 10 ans plus tard, je ne suis pas sûre que ce serait le cas. Enfin, je suis même sûre qu'on n'est plus tous d'accord. Alors pour commémorer ce triste anniversaire et essayer de comprendre quelle empreinte ces attentats ont laissé sur notre société et sur le paysage politique français, de nombreux programmes de nos antennes y consacrent un moment de réflexion. À 18h, Quentin Lafay se demandera dans Question du soir si l'esprit Charlie a diminué. Et avant cela, à 15h, Marie Richeux consacre un book club à la littérature post-attentat. Toute la semaine, le cours de l'histoire remonte le cours du temps et évoque la place du blasphème dans l'histoire, pendant qu'avec philosophie, cherche le sens du mot terrorisme. Autant vous dire qu'il y a de la matière à penser. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, deux jeunes militants témoignent de leur engagement post-Charlie, avec Martin qui a créé Génération Charlie et Sarah qui a rejoint une antenne, ou créé même, de l'association Coexister. Tous les deux au micro de Karine Lelouette.
Je m'appelle Martin Lhomme, j'ai 20 ans et je suis le président de Génération Charlie. J'ai grandi dans une famille de profs à Toulouse. Mon père prof d'histoire géo et ma mère prof à la fac en éco-gestion. J'étais scolarisé à l'école publique puisque mes deux parents sont fervents défenseurs du service public. Donc plutôt voilà, une famille de gauche, pas militant, pas encarté, mais voilà, avec cette fibre de gauche. Mon premier souvenir d'un attentat terroriste, c'est les attentats donc, de Toulouse perpétrés par Mohamed Merah. Il se trouve que moi, j'avais 7 ans à ce moment-là. Et je m'en souviens très bien parce que Myriam Monsonego, donc une des victimes, la fille du directeur de l'école, avait mon âge. Tu sais, aussi le souvenir de ma cour de récréation avec des militaires dans la cour de récréation, donc protection maximale, et donc pendant plusieurs jours, je me souviens très bien de la traque, parce qu'on savait pas où il était. Personne savait trop en fait ce qui se passait, qui c'était, pourquoi. Je me souviens que je reconnaissais plus ma ville en fait. Quand on rentrait de l'école, on rentrait, il y avait personne, c'était vide, hein. Toulouse était vraiment vide, limite on courait, enfin on se pressait quoi pour rentrer. C'était vraiment, il y avait une panique générale pendant la traque. Quand il a été neutralisé dans un appartement, en fait on rentrait d'une sortie patinoire et en fait on avait la radio à fond avec la traque en fait en direct. On a appris, on était dans le bus, on rentrait à l'école et on a appris en fait qu'il avait été tué à ce moment-là. Et pour nous, un peu caricaturalement, mais il y avait un peu un méchant dans la nature et bon bah ça y est, le méchant avait été tué. Et donc je me souviens qu'on a tous applaudi, il me semble. En tout cas, maintenant avec du recul, je me dis bon, c'est quelque chose de très particulier. Même si à ce moment-là, on n'a pas encore fait tout le programme d'histoire. Mais bon, tuer des enfants juifs, voilà, ça rappelle quand même le nazisme. Et alors que c'est quelque chose qui, petit, semblait appartenir vraiment à l'histoire ancienne, quoi. Enfin, le 7 janvier 2015, je suis chez ma grand-mère et c'est mon père, avant de repartir, qui regarde son téléphone et qui reçoit une notification Le Monde, attentat à Charlie Hebdo. Puis donc on allume la télé et puis les noms commencent à tomber et le nom de Bernard Maris arrive. Et là, je vois mon père vraiment mal, comme rarement je l'ai vu d'ailleurs. Et en fait, bon, il m'a expliqué que ça avait été son prof d'économie à Sciences Po. Au-delà d'être oncle Bernard et Bernard Maris du vendredi matin sur Inter, ça avait été son prof. Et un prof qui l'avait marqué. Dans mon école aussi, On en a quand même vaguement parlé, mais bon, j'étais en CM2, donc on nous disait, oui, c'est la liberté d'expression qui est attaquée, etc. Et donc, c'est quelque chose qu'on entend, mais je pense qu'on... En tout cas, moi, je mesure peut-être pas vraiment... Je conçois l'horreur par le fait que, en fait, il y a deux hommes cagoulés qui sont rentrés à l'arme de guerre, qui ont massacré une rédaction. Mais je conçois peut-être moins le fait de tuer un symbole. Ça, c'est mon souvenir, en fait, de janvier 2015, avec, évidemment, par la suite... Le fait, mais enfin, de se dire, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, puisque derrière, c'est Montrouge, c'est l'hypercachère, le 13 novembre 2015, et puis enfin, l'assassinat de Samuel Paty. Je me souviens, donc, c'est le jour de départ en vacances de la Toussaint, il devait être 19h, et je vois un professeur assassiné. Il aurait montré les caricatures de Charlie Hebdo devant sa classe. Et je me souviens qu'au retour des vacances, ma prof d'histoire géo s'est sentie, je pense, un peu obligée d'en parler, mais clairement, elle perdait ses moyens, enfin, elle s'est mise un peu à pleurer. C'est très marquant, enfin, un professeur qui pleure, c'est la première et la dernière fois que j'ai vu ça de ma scolarité. Et donc, à ce moment-là, on réfléchit quand même à ce que ça veut dire. Enfin, et autour de moi, mes parents, les amis profs de mes parents, voilà, il y a eu cette émotion. Et donc là, mon père, il s'est aussi dit, bah, ce cours-là, j'aurais pu le faire. Donc, le débat des caricatures revient sur la table. J'ai envie de savoir plus sur ce qu'est vraiment Charlie Hebdo. Parce que pour moi, Charlie Hebdo, c'était 2015. C'était le massacre du 7 janvier. Et donc là, je me mets à vraiment à lire Charlie. Et je découvre en fait un journal beaucoup plus riche que ce que je pensais. En fait, avec une ligne éditoriale assumée, engagée, en faveur de l'écologie, du féminisme et effectivement de la laïcité aussi. Mais forcément, donc les en classe quand même, enfin dans mon lycée, ça réveille aussi des débats. Voilà, tout le monde disait c'est horrible ce qui arrivait à ce prof, mais derrière il y avait quand même des débats, mais quand même les caricatures, mais bon, est-ce que c'était son rôle de montrer ça, c'est horrible, mais en même temps, est-ce qu'il l'a pas un peu cherché, quoi. Ça m'a révolté et je me suis un peu senti obligé de trouver ma position aussi par rapport à ces débats-là. Et bon, je l'ai assez vite trouvé, mais oui, c'est là aussi que j'ai un peu voulu m'engager sur ces questions-là. Ouais. C'est devenu presque une obsession, en fait. Enfin, je lisais tout ce que je pouvais lire dessus. J'avais envie de comprendre, parce qu'on parle de djihadisme, d'islamisme et plein de mots en isme. Donc, j'avais un peu aussi... envie de comprendre de quoi on parlait. En 2022, j'intègre Sciences Po Lille et à la fin de ma première année, un peu par hasard, sur Twitter, bon, bah, je vois qu'un journaliste que je suivais est devenu rédacteur en chef adjoint de Charlie Hebdo. Donc je lui envoie un message et je lui dis, bon, je sais même pas si vous prenez des stagiaires, puisque bon, on a tous entendu voilà, que Charlie vivait, voilà, travaillait en tout cas dans un bunker caché, nanana. Bon, donc je me dis, bon, ça se trouve, ils prennent même pas de stagiaires. Puis bon, au final, je passe un petit entretien en visioconférence, ma candidature est retenue, donc je suis parti pour passer un été avec la rédaction de Charlie Hebdo. Et c'est super, enfin c'est génial. Déjà, donc c'est une toute petite équipe. C'est quand même plutôt une bonne ambiance. Et puis, c'est une école assez incroyable. On a une liberté dans le choix des sujets, dans l'écriture, dans le ton. C'est, enfin, vraiment, c'est un régal, en fait. C'est concrètement pouvoir exercer sa liberté d'expression. Et c'est fantastique. Et puis, à la fin de l'été, je suis un peu triste de partir. Puis très rapidement, début septembre, avec une partie de l'équipe, avec Chris notamment, on se dit que ça pourrait être intéressant d'essayer de sortir du bunker pour aller à la rencontre des jeunes. Non seulement pour moi qui appartient à cette génération, mais pour toute la rédaction, c'est quand même... ouais, c'est un enjeu. C'est un enjeu, la jeunesse, c'est un enjeu. Parce que Charlie, dans son histoire, a été un journal qui s'est plutôt construit justement dans le... comme le sale gosse qui allait à l'encontre de ce qui est dicté, les puissants. Donc aujourd'hui, alors que la ligne n'a pas changé et que ce que prône toujours Charlie, c'est la liberté, c'est l'émancipation, le constat, il est là qu'il y a quand même une forme de fracture. Donc c'est aussi pour ça qu'on lance Génération Charlie. L'idée de Génération Charlie, c'est d'initier un petit peu un tour de France des universités avec la rédaction et de faire des conférences une à deux fois par mois parce que on sentait qu'il y avait un besoin dans les universités notamment de créer du débat tout simplement, même pas de mettre tout le monde d'accord. Enfin, on n'est pas les jeunesses communistes 2.0 ou voilà, il y a pas de... On peut ne pas être d'accord avec Charlie Hebdo, on peut ne pas aimer Charlie Hebdo, on peut être choqué par Charlie Hebdo. Tout ça, c'est possible, c'est normal. On a tous, chacun, nos sensibilités, nos sujets d'offense, etc. Il n'y a pas de problème. Voilà, ça, c'est vraiment la première chose qu'on dit. Puis ensuite, on dit, mais est-ce que vous savez ce que c'est, Charlie, en fait? Est-ce que vous savez vraiment ce que c'est, au-delà des polémiques qui reviennent toutes les deux semaines, un mois, sur les réseaux sociaux, avec tel ou tel dessin? Est-ce que vous savez ce qu'il y a concrètement dans les 16 pages du journal toutes les semaines? Quand on arrive dans les universités, on arrive aussi avec des gros cartons qu'on fait livrer le mercredi à l'université, et puis on offre un exemplaire à toutes les personnes qui viennent. Oh, il y en a quelques-uns qui veulent un peu faire les fortes têtes, donc qui jettent leur journal à la fin de la conférence dans la poubelle, mais globalement, tout le monde repart avec son exemplaire. Et ce combat, je le porte parce que je suis convaincu que Charlie Hebdo, aujourd'hui, est un objet de débat qui mérite sa place dans les universités. Et que ce journal-là est un allié de la jeunesse et de ses combats, plutôt qu'un ennemi. Quand j'entends que Charlie est un journal réac, facho, ou que sais-je, ça s'allume en rouge dans ma tête, quoi. Enfin, c'est tout sauf ce qu'est le journal. Oui, je suis attaqué. Il y a eu 2-3 fois sur les réseaux sociaux des menaces de mort, mais on va dire que c'est pas le plus inquiétant, mais c'est très souvent des insultes, se faire traiter de raciste, d'islamophobe, de laïcard, notamment ça c'est à Sciences Po, hein. À Sciences Po, je suis le vilain petit laïcard, quoi. Faut passer outre, et puis après des fois on se dit aussi que c'est pas une insulte qu'on balance à la légère quand même. Enfin, le racisme c'est pas une opinion, enfin c'est un délit, donc c'est grave, quoi, de se faire traiter de raciste comme ça sans rien. Et pourquoi? Je comprends le fait que des communautés religieuses, en l'occurrence la communauté musulmane, se plaignent de la laïcité en disant que ça ouvre des brèches pour légitimer des discriminations. Je l'entends parce que justement, quand on entend autant parler de laïcité dans la bouche de l'extrême droite, je comprends que ça fasse peur. On a des gens qui effectivement vont faire un peu leur beurre sur la laïcité, qui en réalité n'ont pas grand-chose à faire de la laïcité, et qui vont s'en servir pour porter un discours dégueulasse, xénophobe, raciste. Voilà, donc ça, effectivement, c'est pas la laïcité. La laïcité, c'est pas un principe discriminatoire, c'est pas un principe qui vise les musulmans en particulier. Il y a une laïcité, point barre, et on a un cadre qui pose effectivement des interdits, quelques interdits, pour garantir en fait la liberté de conscience, tout simplement.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Sarah, j'ai grandi à Argenteuil, dans une famille plutôt classe moyenne basse, on va dire, d'une famille franco-algérienne. Ma mère est venue d'Algérie dans les années 80 et mon père est franco-algérien, né en France de parents algériens comme moi. Ma famille est musulmane, voilà, qui observe plutôt la religion. On jeûne pendant le mois de Ramadan, mes parents prient, on ne boit pas d'alcool, on ne mange pas de porc. J'ai fait toute ma scolarité dans le public, en ZEP, même en particulier. Ensuite, j'ai été étudiante d'abord en langue et en management international à l'université. Et dans ce cadre, je suis beaucoup partie à l'étranger. J'ai d'abord fait ma troisième année en Argentine, qui a été une année fabuleuse pour moi. J'ai adoré l'interculturalité. Ça m'a énormément ouvert l'esprit. Et quand je suis rentrée en France à 21 ans, j'ai fait que repartir. J'ai trouvé tous les prétextes possibles pour aller faire un stage en Espagne, jeune fille au pair en Irlande et mon stage de fin d'études aux États-Unis où ça a encore été un énorme coup de cœur. Nous, en France, on a un modèle qui se distingue beaucoup, qui tourne plus autour de l'assimilation pour l'intégration, etc. Et dans lequel, moi, je me suis jamais vraiment sentie à l'aise. Bah, aux États-Unis, je trouvais qu'on pouvait être pleinement américain sans avoir à cacher, sans avoir à renier ses valeurs, ses cultures d'origine. Quel que soit le pays dans lequel j'ai vécu, ce qu'on entendait en premier quand je parlais, c'était mon accent français, que je parle espagnol ou anglais. On n'allait pas forcément me questionner sur ma religion, on n'allait pas questionner ma francité, ça déjà d'une chose. je parlais français, je venais de France, c'était un fait établi. Pourtant, je suis mate de peau, on voit que je suis pas française blanche, mais voilà, c'était un non-sujet. Et c'est vrai qu'en France, à cette époque, donc on revient à 2010, on était en plein mandat de Nicolas Sarkozy, avec le ministère de l'Immigration et l'Identité nationale, avec des débats incessants autour de la laïcité, du voile. Et c'est vrai que c'était très pesant en tant que citoyenne donc franco-algérienne d'entendre en permanence remis en cause son appartenance à la nation et d'être perçue d'une certaine manière comme un problème qui refuse de s'intégrer, à aucun moment, mon appartenance signifie, mes appartenances multiples, j'en ai pas qu'une, signifie une revendication ou un rejet quelconque. C'est comme si on m'a posé une revendication que je n'ai jamais exprimée et c'était assez pénible. Quand bien même je ne porte pas de foulard, par exemple, d'entendre parler en permanence du foulard comme rejet de la France ou comme soumission, etc. C'est vrai que c'était assez agaçant et réducteur de recevoir en permanence ces messages. Depuis l'étranger, je m'intéressais beaucoup à ce que faisait l'association Coexister. C'est un mouvement de jeunes interconvictionnels pour le mieux vivre ensemble. Donc ça rassemble des personnes de convictions religieuses différentes, qu'ils soient croyants ou non d'ailleurs. Et donc j'ai été très séduite par le message parce que ça me faisait du bien d'entendre des jeunes qui portent un autre discours. Et à mon retour en novembre, j'ai participé à des événements, j'ai fait un week-end de formation à la sensibilisation parce que je désirais être bénévole. Et en janvier, j'ai commencé à travailler ensuite. J'ai rejoint un service du Premier ministre, donc à l'époque de Manuel Valls. Et c'était au bout d'une semaine de travail, un collègue vient dans mon bureau et nous annonce que la rédaction de Charlie vient d'être assassinée, une grande partie de la rédaction, et nous parle de ces attentats. Donc c'était comme beaucoup l'incompréhension et le choc qui ont été les émotions premières, la peur extrême face à cet événement aussi violent. Après la série d'attentats, parce qu'on parle de Charlie, mais il y a eu également le 8 et le 9, l'hypercacher et la policière. On avait eu une espèce de réunion citoyenne qui avait été organisée à Argenteuil, où une femme qui portait le foulard s'était exprimée et avait pleuré devant tout le monde en nous racontant que son fils lui avait demandé « S'il te plaît, maman, enlève ton voile, ils vont nous en vouloir, enfin voilà, ils nous en veulent et ça va être grave pour toi, ça va être grave pour nous, etc. » Et ça m'avait extrêmement touchée. Et en discutant avec d'autres personnes, il y en avait beaucoup que je sentais assez résignée, dans le sens où on subissait ce discours très pesant depuis déjà des années. Et là, il y avait une espèce pour beaucoup de... Bah c'est fini, on peut plus rien faire maintenant qu'on a eu un attentat de la part de personnes qui disent faire cela au nom de la religion pour préserver l'intégrité du prophète. Une espèce de résignation et de défaitisme qui m'avait énormément attristée et donné une espèce de niaque pour agir davantage. Et de l'autre côté, j'avais d'autres sons de cloche. De la part de personnes non musulmanes, non racisées, qui interrogeaient de plus en plus ouvertement, on va dire, la dangerosité de l'islam, d'une certaine manière, qui me le formulait ouvertement. Mais Sarah, est-ce que dans l'islam il y a des choses qui sont vraiment dites contre les juifs, etc. Et qui me demandait si, je sais pas moi, en tant que musulmane, je n'étais pas homophobe, si, des propos, comment dire, oui, de personnes, même parmi mes proches, parmi mes amis, qui, moi, m'offensaient beaucoup à titre personnel, en tant que personne croyante et en tant que personne qui n'est absolument rien contre aucune autre communauté, au contraire. Et juste après les événements, j'ai souhaité passer... ne pas me contenter, entre guillemets, d'être simplement bénévole chez Coexister, mais de créer une antenne à mon tour. Et j'ai voulu le faire dans ma ville d'origine, donc à Argenteuil, et pas à Paris, où j'étais en train de m'installer. Parce que, justement, Argenteuil étant une ville populaire de banlieue, avec toutes les stigmatisations qui vont avec, et qui, encore une fois, allaient nécessairement s'exacerber avec le choc des attentats qu'on venait de vivre, j'estimais que le besoin était plus grand qu'à Paris, qui ne souffre pas de tous ces maux et de toute cette mauvaise image. Le week-end du 13 novembre, j'étais à Montpellier avec des amis et j'ai appris à distance ce drame. Donc c'était extrêmement choquant. Le mois précédent, on avait eu l'Assemblée Générale de Coexister. Donc on avait travaillé dur un week-end. C'était extrêmement stimulant et encourageant. Et un mois à peine après tout ce travail, on retombe encore de nos chaises avec un nouveau drame, avec beaucoup de craintes et immédiatement, moi, ce qui m'a beaucoup ragée à ce moment-là, c'est que on n'a même pas eu le temps de quelque part de se remettre, de vraiment réaliser ce qui venait de se passer, on a eu des discours très répressifs, très stigmatisants, avec cette proposition de déchéance de nationalité pour les binationaux qui se rendraient coupables d'actes de terrorisme. Et on sait que historiquement, c'était une demande du Front National. Donc, au-delà du choc, de la tristesse, de l'envie d'agir encore plus forte et donc je me sentais assez fatiguée moralement et pour autant très déterminée à continuer à agir et très en colère contre ces mesures qui ont été proposées et qui ne sont en aucun cas une solution crédible pour lutter contre les actes terroristes. Je pense que beaucoup de personnes qui tiennent des propos plutôt laïcistes, donc rejet de la présence, de la visibilité de la religion dans l'espace public, etc., j'ai un doute sincère sur la bonne foi pour beaucoup des auteurs de ces discours. Très honnêtement, je soupçonne certains d'entre eux d'en réalité avoir trouvé une manière plus politiquement correcte d'exprimer une certaine forme de racisme et d'islamophobie assez claire, dans la mesure où c'est plus simple d'exprimer une hostilité envers les valeurs d'une religion qui est présentée comme dangereuse, comme incompatible, comme rétrograde envers les femmes, comme voilà plein de choses envers les non-croyants, etc., plutôt que de cibler une population par rapport à ses origines ethniques, par exemple. Il y a peut-être des personnes de bonne foi qui ne veulent pas voir de religion dans l'espace public et voilà, c'est un débat qu'on peut avoir pacifiquement. Et c'est vrai que j'ai l'impression que le discours qu'on entend justement en permanence dès qu'on allume la radio ou la télé, qui martèle beaucoup autour de ces idées, s'imprègne en fait dans l'esprit de personnes qui, au départ, n'ont pas de problème particulier avec les musulmans, qui sont parfaitement ouverts, etc. Mais ça m'est arrivé récemment récemment qu'une personne, un ami qui est très ouvert, qui n'a aucun sujet particulier envers les musulmans ou envers l'islam, m'avait dit que il avait du mal avec l'idée d'embaucher une femme qui portait le foulard pour des travaux de maison, etc. Et il a conscientisé immédiatement. Il m'a dit tout de suite, mais ça m'énerve de ressentir ça parce que c'est pas moi, quoi. Mais pourtant, je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti une volonté de distance au moment de recruter cette personne. Après 4 ans d'investissement auprès de Coexister, je ressentais le besoin de me détacher un petit peu et de lever un peu le pied parce que malgré tout, ces sujets sont assez affectent pas mal ma santé mentale, c'est assez éprouvant. Je reste une personne concernée par ces questions. Le fait que une partie de la population manifeste une hostilité franche envers nous, envers moi, les personnes qui observent la même religion que moi, qui ont la voilà, qui qu'elles soient croyantes, enfin pratiquantes ou juste perçues comme, c'est triste. Ça fait beaucoup de peine en fait. Quand nous on est investi dans son pays, enfin moi je fais du bénévolat depuis que je suis adolescente, qu'on n'a pas la sensation de faire quelque chose de mal par rapport à nos croyances, qu'on n'a pas la sensation quand on existe au quotidien et quand on jeûne pendant le mois de Ramadan de nuire à qui que ce soit. Et pour autant, on entend beaucoup de débats sur le fait qu'on serait incompatible avec les valeurs de République ou autre ou être énormité de ce type, et des personnes qui se prennent très au sérieux dans ces discours et qui intellectualisent et qui écrivent des livres et qui font des projets de loi. Et oui, c'est assez douloureux. Donc j'ai fini par m'éloigner doucement, tout en gardant un lien toujours affectif et continuer à suivre les actions qui étaient menées par des plus jeunes aussi que nous maintenant.
C'était Génération Charlie au pluriel et avec un point d'interrogation, un reportage de Karine Lelouette réalisé par June Lauper avec un coup de main de Benjamin Hu. Merci à Martin Lhomme, à Sarah, à Manon, à Cyprien, à Nouria et à Alexandra. Merci aussi à Valentin Rémy, la tape pro des pieds sur terre, et à Inès Bouffartigue, Sébastien.